Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les gars, je viens de raccrocher avec Mr. Darren Tullett, ok, qui m'a invité à participer à son podcast Les Matchs de ma vie. C'est son nouveau rendez-vous. Bon, la particularité de ce podcast, c'est qu'il se déplace chez l'invité. Donc je lui ai proposé de venir à Sopress début de semaine prochaine. Voilà comment ça va se passer. Il vient à Sopress, je réponds à ses questions, enfin je fais son podcast. On le séquestre et il fait le nôtre dans la foulée. C'est bien ça ou pas?
Top ça, super idée de l'avoir invité. Et pour le thème, je me dis qu'on pourrait peut-être aborder avec lui la question de la culture foot. Culture foot en Angleterre et en France. Un petit comparatif avec lui qui connaît bien l'Angleterre pour y être né et connaît bien la France pour y vivre depuis 30 ans. Un thème assez large, mais je suis sûr qu'il pourrait amener pas mal d'histoires et d'anecdotes. Dis-moi ce que t'en penses.
Ouais, ça me va. Donc on se dit lundi prochain, 14h. Allez, la bise.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Le podcast Hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Alternative Football avec un invité very special, avec mon accent de anglais tout pourri. Aujourd'hui, je te laisse nous le présenter, Édouard.
Ouais, c'est mon mentor côté média, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est celui qui m'a pris sous son aile quand je suis arrivé à Bein en 2012. C'est Mr. Darren Tullett.
Bonjour Darren.
Hello.
Comment ça va?
Je vais très bien, merci. Je suis ravi d'être en si bonne compagnie.
Ta première question habituelle, celle que tu aimes poser en premier, Édouard.
Même si je la connais un peu, mais pour que tu puisses un peu plus te présenter. Ton lien avec le foot, toi l'enfant de Brighton, c'est quoi ta petite expérience, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Moi et le foot, si tu veux, c'est une histoire très anglaise, plutôt. Je commence tout petit à regarder et jouer au foot en même temps. Je pense que j'ai des photos de moi à peine un an avec un petit ballon au pied au parc. Donc c'est tout naturel. Je grandis dans une maison HLM. Mon papa joue au foot le week-end. Il travaille à l'usine, mais le week-end, il joue au foot avec ses potes. Ils ont une équipe, un pub team, tu vois. Donc c'est l'équipe de mecs qui boivent ensemble au pub. Ils jouent le week-end. Ils sont que des bouchers, tu vois. Et mon père, c'est le pire. Tu vois, arrière droit, ne fait que des foot parce que c'est le plus long. Donc les mecs, tu vois, ils poussent le ballon derrière lui. Et parce qu'il ne peut pas rattraper les mecs, je le vois que faire des fautes. Et c'est ça mon éducation de football, tu vois. Mais voilà, on grandit avec ça, c'est à la maison. Évidemment, je suis très ancien, donc il n'y a pas beaucoup de matchs de foot en direct à la télé à cette époque-là. Mais la finale de la COP, par exemple, c'était toujours un événement parce que c'était en direct de l'hôtel des joueurs, 3 heures avant, sur la BBC et sur ITV. C'est-à-dire, c'était France 2 et TF1 en même temps pour la finale de la Coupe. C'était n'importe quoi quand on y pense. Et c'était des moments, les rares moments où chez moi, dans la petite maison HLM, c'est notre cité en quelque sorte, l'un des rares moments où on avait des gens chez nous, parce que le salon était trop petit normalement pour recevoir. Mais là, mon père avait le droit de faire venir des potes parce que c'était la finale de la Coupe. Donc déjà, oui, le foot prend une place importante et moi, je fais que jouer au foot quand je suis pas à l'école, quoi. Je reviens à la maison, même à 4-5 ans, je me souviens, je vois très bien. Que je suis tout de suite dans le jardin et puis plus loin, quand je suis un peu plus grand, au parc. Mais entre-temps, c'était sur le béton en face de chez nous, ouais. avec tous les potes, quoi. Donc le foot, ça a toujours été le truc qui rythmait mes jours. Mais de là à penser qu'un jour, J'allais trouver une façon de me faire payer pour regarder des matchs de foot. Et...
T'as pas rêvé à devenir footballeur professionnel?
Si tu m'avais vu jouer une fois, tu m'aurais pas posé cette question-là. Là, j'étais très moyen comme footballeur. Et donc, c'était jamais une possibilité. Mais j'adorais regarder les matchs. Et je me souviens très bien, quand j'avais 11-12 ans, et je me suis acheté mon premier vélo. Et je me le suis acheté, mon vélo, parce que j'avais un petit job le samedi chez le gars qui vendait les fruits et légumes. Et je faisais les livraisons sur un gros vélo à l'ancienne pour lui. Et c'était comme ça que j'ai pu avoir le petit billet tous les samedis. Et je le mettais, je me souviens très bien, j'allais à côté parce que le magasin à côté, c'était un magasin de vélo. Et je lui ai donné 80% de mon petit salaire du jour parce que j'étais en train de me payer un vélo, tu vois. Et une fois que j'avais le vélo, j'allais... Tout le week-end, je passais parce que je jouais au foot quand même, tu vois, dans mon petit club de quartier. Mais voilà, on était nuls, mais je jouais. Et je prenais beaucoup de plaisir à jouer dans mon petite équipe. Mais quand je ne jouais pas, j'étais sur mon vélo, à aller regarder les matchs sur les parcs à côté. Tu vois, les petits matchs, c'est vraiment le plus bas niveau qui existe. Mais je faisais le tour comme ça pour regarder les matchs des gens que je ne connaissais pas. Tu vois, mais ça me passionnait. J'étais content de juste être là. Je regardais, quoi. Encore une fois, sans aucune arrière-pensée, genre je suis en train de préparer une carrière de journaliste. Non, pas du tout. Mais c'était pour vous dire à quel point le foot était une espèce d'obsession, quoi.
Et c'est quoi ton rapport à Brighton et qu'est-ce que ce club de Brighton? Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce club-là? Comment tu le décrirais? Comment t'expliquerais son histoire?
Brighton, c'est un club... quand j'ai commencé à y aller à l'âge de 12 ans, debout, derrière le but, évidemment, Brighton est en 3e division. Et en fait, c'est un club qui a 120 ans à peu près aujourd'hui. Pour presque 110 ans sur les 120, on est en 2e ou 3e division, parfois même en 4e division. Donc quand je commence à y aller, je suis jeune et j'ai déjà choisi à l'âge de 5 ans d'être supporter d'Arsenal parce que quand j'ai 5 ans, 6 ans, Arsenal est champion. Donc comme tous les petits, tu ne veux pas être supporter d'un club de merde qui joue à côté, tu veux être champion. Donc je suis fan d'Arsenal, mais évidemment... je ne peux pas aller à Londres voir les matchs, donc je vais à Brighton et c'est aussi mon club, quoi. C'est un club de cœur. Mais 3e division, effectivement, j'ai des souvenirs de matchs sous la pluie, il n'y avait rien au-dessus de nos têtes et on prenait tout dans la tronche. Mais je me souviens aussi de public avec énormément de gens au stade, quoi. Même à 12-13 ans en 3e division. Je me souviens d'un match, un week-end de Pâques contre Cardiff, on était 31 000 dans 3e division. Donc c'est bon, quoi, tu vois. Non, mais il y a tellement de choses que tu vis à cet âge-là. Chanter des chansons quand tu penses les paroles, tu vois, un peu guerrier, tout ça, n'importe quoi. J'ai 12 ans, 13 ans, je fais 1m50, tu vois, et 35 kilos. Et je suis en train de chanter envers des mecs de Sheffield qui travaillent tous à l'usine où ils sont mineurs, tu vois, ils ont 50 ans, ils font 120 kilos. Ils boivent 10 pintes, tu vois, par soirée. Et nous, on est en train de chanter « Vous allez dans la mer, tu vois, on va vous foutre dans la mer, tout ça. » Oh là 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 là. Et après, on doit passer devant eux et ils se foutent de notre gueule parce qu'ils sont gentils, tu vois. Ils sont plus, tu vois, avec deux doigts, ils ont pu me mettre à terre. Donc, j'ai souvenir de beaucoup de ce match-là. J'ai en tête beaucoup de noms de joueurs que je ne vais pas citer parce que ça ne veut dire rien pour l'audience en France. Mais de temps en temps, on avait quand même un joueur ou deux qui descendaient de grands clubs comme Jimmy Case, qui était un milieu de terrain très dur de Liverpool, par exemple. Donc lui, il fait partie de mes joueurs préférés de cette époque-là. Et puis, il faut dire qu'aussi, qu'à 14 ans, j'ai vécu une promotion, la première promotion en Ligue 1, Division 1 à l'époque, première ligue aujourd'hui, évidemment. Mais Brighton est allé, j'étais à presque tous les matchs à domicile cette saison, et on va gagner à Newcastle pour monter en D1. Et je me vois au parc avec mes potes autour d'une petite radio, tu vois, écouter les commentaires. Et on gagne 3-1 là-bas. Et on avait un avant-centre qui s'appelait Peter Ward. Et le chant était « He shot, he scored, it must be Peter Ward, Peter Ward, Peter Ward ». Il a marqué ce jour-là, Brighton est monté. Et le premier match en D1, c'était Brighton-Arsenal. Non, évidemment, moi, je suis pour Brighton, tu vois, la dernière.
Là, ouais, d'accord.
Et on perd 4-0 contre Arsenal, quand même, pour le premier match. Et on a vécu 4 saisons en Premier League, à cette époque-là, où on est toujours en train de lutter pour le maintien. Et à la fin de la 4e saison, on descend, mais on fait une finale de coupe, quand même. On est à Wembley, j'y vais à Wembley pour la première fois de ma vie. C'est Brighton-Manchester United. Et à cette époque-là, s'il y avait match nul après prolongation... C'est fucking replay, tu vois. J'ai pas les moyens d'aller deux fois au stade. Bon, bref, on fait 2-2 avec Manchester United. Et puis derrière, évidemment, le replay, tu perds 4-0. Donc, c'était un peu triste. Mais voilà, mes souvenirs de première fois avec Brighton, quoi. Toutes ces premières fois, les premiers matchs, les premiers Wembley, les premiers matchs à l'extérieur, tout ça.
Et Brighton, pour les gens qui ne connaissent pas en France, ça serait... C'est quoi ? Il est vu comme un club de quoi en Angleterre, comme tu peux avoir Lens, qui est le club des ouvriers en France, Paris, qui est le club de la capitale, Marseille, qui est le club...
Ça pourrait être le Havre.
Ouais, à un moment donné, on était jumelé avec le Havre, ouais. À un moment donné. Mais il ne faut pas oublier que le Havre, c'est dans le nord et Brighton, c'est dans le sud.
Ouais,
attention. Non, mais l'aide à rien. Tu vois, nous, on est des gens du sud, monsieur. Donc, est-ce qu'il y a un club dans le sud de la France qui n'est jamais vraiment parmi les gros, quoi, tu vois, c'est un peu ça.
Arles-Avignon.
Ouais, non, mais on serait plutôt à Lorient, peut-être, un truc comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'aujourd'hui, Brighton était en première ligue et réussit très bien. Première campagne européenne dans l'histoire du club. Et j'ai pu aller à Marseille. Pour voir ce match-là dans le Vélodrome. Tu vois, moi qui étais derrière le but en 3e division à 12 ans...
J'ai pensé à toi.
J'étais à Marseille à regarder Brighton jouer en Ligue Europa. Ouais, UEFA Cup, quoi. Premier match à l'extérieur dans l'histoire du club. Et on est à Marseille, quoi. Et on ne perd pas, en plus. On fait 2-2. C'était incroyable. Et en plus, quand j'y pense, tu vois, le chemin... À 12 ans que je suis derrière le but, si tu me dis un jour, bon, déjà, tu vas vivre en France, déjà, je t'insulte parce que c'est impossible et pour quelle raison je vais être envoyé en France, mais aussi de me dire, tu seras à Marseille pour voir Brighton jouer dans une Coupe d'Europe et tu seras l'invité d'un ballon d'or, Jean-Pierre Papa, parce que c'est lui qui t'aurait trouvé la place, tu vois. C'est sympa. Nous, de toute façon, les supporters de Brighton, on vit nos meilleures vies en ce moment. Ça sera jamais aussi bien. On était 6e l'année dernière, je pense qu'on n'ira jamais plus haut que ça. Tu vois, c'est fini déjà. Non, mais tu vois, là, si on arrive à faire 10, 12e cette saison, moi, je suis ravi. Hein. On joue des matchs contre les équipes comme Marseille et Ajax, quoi. C'est extraordinaire.
Oui. T'es un enfant.
Ouais, carrément. Non, mais carrément.
L'idée aujourd'hui, à travers ton parcours, un peu, c'est d'essayer de comprendre les différences entre la Ligue 1 et la Première Ligue. Est-ce que la Première Ligue doit devenir un peu le modèle à suivre à tout prix? Parce que c'est un peu le gros modèle en France à chaque fois, mais même pour tous les championnats dans le monde entier. C'est la Première Ligue, la Première Ligue, la Première Ligue. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus, plutôt quand même sur l'aspect médiatique et l'aspect supporter. Du coup, on va revenir un peu au début. Est-ce que tu pourrais définir si un Martien débarque sur la Terre demain, si tu dois lui décrire qu'est-ce qu'est la culture foot anglaise? Comment tu peux la résumer? C'est quoi la culture foot anglaise? Parce que tu en as parlé un peu avec Brighton,
oui.
Mais ça serait quoi la culture foot anglaise?
C'est vrai qu'on ne peut pas comparer les deux pays, les deux footballs, France-Angleterre, sans aller un petit peu au bout de notre culture footballistique. Et c'est vrai qu'évidemment, en France, il y a beaucoup de vrais fans, je ne dénigre pas. Quand je vais au stade en France, et j'ai eu le plaisir d'aller voir beaucoup de matchs dans beaucoup de stades, et c'est toujours super sympa, j'adore ça. Et ceux qui sont là, ce sont des vrais fans, comme on peut trouver dans n'importe quel pays où on aime le foot. La différence, c'est dans le nombre et la profondeur. Par exemple, vous allez dans la rue, n'importe quelle ville en Angleterre, t'arrêtes des gens de tout âge, ok? Et vous dites, what's your club? C'est quoi ton club? Quel est ton club? Tout le monde sait tout de suite de quoi tu parles. Tu vois, il ne faut pas que tu dises, non, mais je parle de foot.
Ouais.
Non, les gens, ils savent, now, what's your team? Ah, moi, je suis pour... Blablabla. Et peut-être que ce n'est pas tout à fait pareil ici, tu vois, par exemple. Et un autre truc, parce que j'ai regardé avant de venir, c'est le nombre de personnes qui vont au stade, justement. Tu vois, ce n'est pas pour être désagréable, surtout que beIN Sport diffuse la Ligue 2, mais la Ligue 2, le week-end dernier, tu vois, les audiences, le nombre de personnes au stade. Ajaccio, 4000, Annecy, 3000, Angers contre Bordeaux, quand même, Angers-Bordeaux, 10 000, OK. Guingamp, 7000, 3000, 5000... Dunkerque, 3000, Rodez, 3000. Bon, il y avait 18 000 à Caen, tant mieux. Mais en Angleterre, le même week-end, et c'était juste par hasard, ce week-end dernier, Bristol City, 22 000, Huddersfield, 18, Hull, 21, Middlesbrough, 28 000, des deux, Norwich, 26 000, Stoke, 25 000, West Brom, 24 000. Tu voyais un peu la différence? il y a 20 000 personnes de plus au stade en D2. Et donc, s'il y a 20 000 ou 25 000 en D2, ben, en D3, on peut aussi arriver à 10 000 assez facilement, pour beaucoup de clubs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un quatrième division professionnelle et un cinquième qui est plus ou moins professionnel aussi. C'est pour dire qu'il y a une profondeur au niveau supporter qui n'existe pas ici. Il y a beaucoup plus de gens qui vont au stade et qui vivent viscéralement le football. Et c'est ça la différence, à tous les niveaux, il me semble.
Surtout en Angleterre, le football n'est pas connoté de manière aussi négative qu'en France.
C'est vrai qu'avant la Coupe du Monde et la victoire en 98, le foot, ce n'était pas un sujet de conversation à certains dîners mondains, effectivement. Alors qu'en Angleterre, oui, que tu sois chanteur, écrivain, intellectuel ou éboueur, tu parles foot avec tout le monde, effectivement.
J'ai une anecdote sur ça. Je suis à West Ham, 2002-2003, et je sais qu'à la télé, il y a une interview de Tony Blair, un peu décontractée.
Oui.
On lui pose la question, c'est qui votre joueur préféré? Et il cite Steve Malbranck, parce que Tony Blair est fan de Fulham. Non, Fulham.
Ah, il était
Fulham.
Pardon.
Et là, il dit, moi, Steve Malbranck. Déjà, il faut aimer Steve Malbranck, ok, c'est un super joueur, mais il faut connaître un peu le foot pour dire Steve Malbranck. Et c'est là où j'ai tout compris. Et c'était pas genre comme parfois certains politiques en France. Oui, j'adore l'équipe, j'adore le Paris Saint-Germain, j'aime Mbappé. Ouais, tout le monde aime Mbappé, donc voilà. Donc c'était vraiment des puristes. Et donc, il avait pas peur de dire, moi j'aime le foot. Le foot, c'est important pour moi. Et en Turquie, j'ai connu ça aussi. Les mecs, que ce soit artistes, hommes politiques, quoi que ce soit, ils aiment le foot, ils le disent. Ils sont pas de suite, c'est pas le sport de beauf. Et c'est vrai qu'en France, très souvent, on a cette image-là. On va pas la changer, c'est comme le prof de sport en France. Il est beauf, il est en survêt, il a le sifflet, enfin tu vois. Et en Angleterre, il n'y a pas ça. Donc, du coup, c'était fier d'être supporter.
Toi qui arrivais d'Angleterre, tu es arrivé en quelle année en France?
C'était en fin 88, je crois.
Ah oui, donc tu as vu toute l'évolution, même du rapport des Français avec le football. Tu as vécu France 98.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a choqué au début? Et comment tu vois l'évolution du rapport entre les Français et le football?
Ce qui m'a surpris dans un premier temps, c'est que je venais de Manchester. Où j'avais commencé à faire des études et puis après, voilà, je suis, ma vie de branleur a repris le pas. Et donc, j'étais barman avant de venir en France chercher une aventure. J'étais avec un pote anglais qui, lui, avait une vraie idée. Hein. Il voulait venir en France pour perfectionner son français et il venait d'étudier l'histoire de l'art. Donc, il dit, Paris, c'est la ville de l'art. Donc, je vais peut-être trouver quelque chose à faire là-bas et puis... au pire, à nous les petites Françaises, quoi. J'ai dit, OK, je te suis. Et donc, j'ai aucune idée, tu vois, de ce que je vais faire en France. Sauf qu'à Manchester, tous les week-ends, on allait voir soit City, soit United. Et j'avais choisi Manchester comme ville d'études parce qu'il y avait deux grands clubs et que je savais, à cette époque-là, ce n'était pas complet tous les week-ends et que tu pouvais aller, tu faisais la queue derrière le but pendant 2 heures, mais tu avais ta place, tu allais rentrer, tu vois. Je viens à Paris, je veux aller voir des matchs de foot et on me dit « Non, il n'y a pas de match ce week-end. » Je dis « Comment ça? Je suis dans une capitale européenne. Il n'y a pas une équipe qui joue à domicile. » Non, parce que la seule équipe joue à l'extérieur ce week-end. Je dis « What the fuck? Il y a un seul club. » Bon, après, le matra est arrivé brièvement, donc on a pu aller voir de temps en temps une autre équipe que le Paris Saint-Germain. Mais c'est ça qui m'avait frappé dans un premier temps, qu'une ville aussi grande que le Paris Saint-Germain, n'avait que le Paris Saint-Germain en D1, et en plus que le Paris Saint-Germain était un petit bébé, quoi, un club qui venait juste de naître en quelque sorte. Donc ça c'était un vrai choc pour moi, venant de ce pays. Et je dis pas que l'Angleterre c'est mieux et tout ça. Non, c'est pas mon genre. Je serais pas en France après toutes ces années si j'étais aussi chauvin que ça. Mais c'était effectivement un choc dans un premier temps. Et puis effectivement le manque d'intérêt pour le foot que j'ai rencontré dans un premier temps. Moi, je voulais un peu, j'étais un peu obsédé par le foot. Donc moi, j'en parle quand je rencontre des gens. Et souvent, c'est une façon aussi de se faire des amis.
Ouais.
Je suis allé jouer pour une équipe de foot tout de suite en arrivant à Paris, les Paris Gales.
Donc,
à l'époque, c'était des Irlandais qui avaient formé cette équipe-là. Donc, c'était ça aussi, une façon de rencontrer les gens. On allait au pub après le match. Même avant le match, parfois. ce qui explique certains résultats. Mais c'est toujours le sport et le foot en particulier pour créer des amitiés. Waouh, là, j'étais un peu perdu. Hein, quand j'ai rencontré des gens, je me disais, what team? Hein, quoi? Un team, quoi?
Et de suite.
Ah, tu parles de foot?
Avec ce ton-là.
Okay.
Du foot. Okay, ah, t'aimes le foot.
Oui, c'était un peu ça.
Tu t'es déjà senti jugé à aimer le foot dans des discussions avec des gens qui s'en foutaient ou pas?
Disons qu'il y avait pas mal de gens qui s'en foutaient assez clairement. Donc, je vais chercher des amis ailleurs. C'était pas facile dans un premier temps. Ouais.
Et comment tu décrirais le rapport des Français au football? On a quoi comme rapport par rapport au vôtre, au football?
Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit ici que j'ai découvert assez tôt par rapport à votre intérêt général pour d'autres footballs. Ça, c'est aussi parce qu'il y a cette idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça existe vraiment dans le football français. Oh, vous aimez bien vous fouetter en disant « Oh, mais c'est mieux ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre ?» Bon, c'est vrai, il faut toujours regarder ailleurs et voir ce qu'on peut en tirer. Mais j'ai apprécié assez tôt, une fois que j'avais pas encore les moyens ou l'envie ou le savoir-faire pour avoir l'abonnement Canal+, mais je regardais parfois parce que, tu sais, les images qui étaient... Tu pouvais quand même voir les buts à travers, même si c'était brouillé et tout ça.
Ouais.
Je regardais l'émission de soir. Et je pense que c'était Pierre Sled qui présentait à l'époque l'équipe de dimanche. Donc, je ne savais pas qui c'était, évidemment. C'est avec le recul que je comprends tout ça. Mais on arrivait à voir à peu près les buts le dimanche soir chez nous, toi, alors qu'on n'était pas abonné. Et ce qui m'a frappé, une fois que j'avais compris un peu mieux ce qui se passait, c'est qu'en France, il y avait un intérêt pour les champions étrangers. Alors qu'en Angleterre, on ne voyait presque jamais un but marqué ailleurs qu'en Angleterre. Il y avait les soirées de foot européen, évidemment, les Coupes d'Europe.
Ouais.
Ok, à ce moment-là, on s'intéressait très vaguement à l'adversaire, mais c'était toujours le foot anglais, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai, c'est un petit peu classique dans une situation de marché, en quelque sorte. Hein. T'es le numéro un, tu ne regardes pas plus loin, tu t'intéresses pas aux autres. Bon, petit à petit, en Angleterre, ça a changé depuis. Mais en France, ouais, quand je suis venu ici, une fois que j'étais un peu... je vais vivre ici, je vais quand même commencer à m'intéresser un petit peu plus à la société française. Ça m'avait frappé, qu'il y avait des émissions, beaucoup plus de matchs étrangers diffusés. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de nouveau. Et ça m'a permis aussi de mieux connaître des clubs italiens, espagnols, parce que moi, je ne les voyais jamais jouer. S'ils n'étaient pas contre un club anglais, on ne les voyait jamais en Angleterre.
Mais tu sais que tu as raison. Pareil, anecdote, 2002-2003, je suis à West Ham. Donc, je sais, quand j'arrive à West Ham, en Angleterre, je ne suis pas connu. Et donc, dans le vestiaire, c'est Joe Cole. Il me dit « Ouais, tu viens d'où ?»« Ah, tu viens de Paris ?»« Ok, Paris. » Je dis « Oui, oui. » Il me dit « Tu joues avec qui ?» Moi, je commence à citer des noms, mais serein, tu vois, genre... il y avait Ali Benarbia. Et je vois dans sa tête... Ronaldinho, il vient d'arriver. « Ah oui, the Brazilian, oui, ok. » Et je cite 3 ou 4 noms un peu, tu vois, en France, des sommités. Et je vois vraiment, mais il me regarde avec des yeux de suricate. Mais de quoi il me parle, quoi?
Ouais.
Et Fred Canouté, il me dit « Non, mais en Angleterre, il n'y a pas d'image de Ligue 1. C'est la Liga tout juste. À l'époque, en 2002-2003, la Liga, ils connaissaient le Real. Mais sinon, c'était que du championnat anglais et du championship.
Ouais. »
Voilà. Et là, dans ma tête, j'ai dit « Ah ouais, donc en fin de compte, mon background et mon CV, je peux le jeter. » Quoi. Donc, donc j'ai mis mes crampons et j'ai été obligé d'y aller comme
drôle,
un fou. Quoi.
Hein. Ouais, ça fait drôle. Oui, oui.
C'était fou.
T'arrives et personne
te connaît. Un nobody.
Non, mais c'est ça, c'est affreux.
Ah, mais pour l'humilité, c'est... Ouais, c'est... T'apprends l'humilité et puis après, tu dis, bah écoute, il faut que je me fasse un prénom, un nom, un curriculum vitae sur place. Donc, dès le jour même, sur le terrain, bingo, quoi.
Mais tu vois, au moins, en France, il y a cette ouverture d'esprit par rapport à ça. C'est peut-être parce que, aussi, ouais, parce que vous faites du mal en disant,
c'est
oh,
trop,
la Ligue 1, c'est pas assez. Mais au moins, ouais, il y a cette ouverture.
Trop.
Et ce qui m'a permis, effectivement, quelques années plus tard... À trouver une situation.
Mais tu sais que c'est too much. En France, parce que tu viens de l'étranger, tu vas être considéré comme meilleur. Et c'est vrai que parfois, j'ai vraiment cette impression. Ouais, le gars, il a joué en première ligue. Waouh, donc foncièrement, il est super fort. Ouais, t'as joué en première ligue, t'as un niveau, mais à un moment donné, il faut que tu t'adaptes et tout ça. Donc c'est assez drôle. C'est vrai que je te rejoins sur ça. Les Français, on regarde tellement les championnats étrangers, on idéalise tellement les championnats étrangers qu'on s'auto-flagelle. Et après, il ne vaut pas 1 milliard.
Et toi, t'idéalisais ou pas avant d'arriver en première ligue? T'idéalisais la première ligue aussi? Et qu'est-ce que tu avais comme image par rapport à l'Angleterre, au foot, la patrie du foot, ceux qui ont inventé le football, et l'image que la réalité peut-être?
Moi, c'était le sentiment de liberté. Moi, quand tu me parlais d'Arsenal, ben moi, j'avais beaucoup de potes en espoir, mais il y avait Thierry ou Nicolas Anelka. Thierry Henry et Nicolas Anelka qui étaient en Angleterre et qui s'épanouissaient. Je les voyais s'épanouir, prendre du plaisir et prendre une autre dimension. Et Thierry me disait, mais les stades sont pleins, tu verras. Et quand il n'y avait pas, il me disait, tu fais un tacle, tout le public est là. Bon, je me dis, ouais, c'est folklore, il faut être vraiment un grand nom. Quand tu fais un tacle, ils vont comprendre. Non, tu fais un tacle, un changement de côté, une frappe qui passe, mais c'est le jeu. ils t'applaudissent et tu sens qu'ils aiment vraiment le jeu. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est ici, c'est la Mecque du football. Enfin, moi, ça a été une saison importante pour moi, pour me relancer parce que je ne savais plus si j'aimais le foot ou pas. Là, j'ai vu, ouais, le football, ce football-là, ce football que j'ai connu, ouais, franchement, c'est le feu.
Alternative football. Alternative football.
Mais ça me rappelle une autre anecdote par rapport à ce que j'ai vu en France qui était différent. Deux exemples alors. D'abord, je vais au parc pour les premières fois, fin 80 et début 90 et tout ça. Parenthèse, j'étais là le soir où le PSG tape le Real 4-1. Par hasard, ouais. Je suis là, tu vois, derrière le but, Boulogne. Fabuleux, donc je vois ce match-là, historique, j'ai encore la place dans une petite boîte à la maison. Bref, les premiers souvenirs, les trucs qui me frappent le plus, c'est que dans le football français, si un défenseur dégage un ballon en touche, il se fait huer. En Angleterre, le stade se lève pour applaudir. Voilà, tu as écarté le danger. Bien joué, mec. Et en France, non mais pour de vrai, les arrières et tout ça, ils étaient sous une pression parce qu'ils ne pouvaient pas dégager n'importe où. Il fallait qu'ils sortent proprement. Et là, c'est en 91. Et putain, s'ils faisaient une connerie techniquement... Et il se faisait huer par leurs propres supporters. J'étais là, waouh, qu'ils sont durs, les supporters. Et puis, je me souviens, je me vois quelques années plus tard avec un autre assisté, Djibril, quand il est à Liverpool. Et j'essaie de l'aider à s'adapter au football anglais, parce qu'évidemment, le talent, il a. Mm. Mais il n'avait peut-être pas compris la mentalité des supporters. Et ce que tu viens de me dire me fait penser à ça. Tu fais un tacle, on applaudit. Mm. À Liverpool, Djibril, qui était quand même la vedette quand il arrive, tu vois. Et il avait ce truc, tu vois, genre, tu me donnes un bon ballon, et sinon, tu vois, je te fais des gestes, tu vois, sur la pelouse. Ouais. Oh, c'est quoi, tu vois. Faut pas faire ça à Liverpool, surtout quand t'arrives de l'étranger, tu vois, parce que, pareil, tu vois, Djibril Cissé, c'est qui, tu vois.
Tu te fais tirer les oreilles.
Les mecs, ils sont...
Les ongles, même les mecs.
Et donc, Djibril, j'ai dû lui dire, mais... Arrête. Il y a une passe, tu vois. Toi, tu sais qu'elle va sortir, mais c'est une passe, tu vois, en profondeur. Je dis, mais putain... Tu fais un sprint.
Fais l'effort.
Fais un sprint vers ce ballon que tu penses ne pas avoir. Et les mecs, ils vont se lever et t'applaudir. Parce que, tu vois, c'est aussi ça, une tolérance qu'a le supporter anglais. Même si petit à petit, avec les changements de niveau de Première Ligue, les entraîneurs comme Guardiola, Wenger et tout, qui ont pas mal changé des choses. Mais il y a toujours en Angleterre, même aujourd'hui, un public qui va être très tolérant par rapport au niveau du jeu.
C'est le fighting spirit.
Oui, ça, OK, évidemment, si tu réussis un dribble et un petit point et tout ça, on est tous émerveillés.
Mais
un simple mec qui donne tout, qui donne des tacles, qui court comme un damné partout. Donc, Djibril, putain, corps, mec, tu vois.
Ouais.
Et tu vas les mettre dans ta poche. Et puis, quand tu vas avoir le bon ballon et tu mets tu vois, ta frappe de dingue et tu marques, OK, là, tout le monde va t'attendre. Mais en attendant, cours. Vas-y, montre que tu as envie. Ne fais pas des gestes comme ça, parce qu'ils ne vont pas t'apprécier. Quoi, tu vois. Et ça existe encore en Angleterre. C'est une vraie différence. Si tu montres que tu fais de ton mieux, on va quand même t'accepter. Ouais. Même si tu n'es peut-être pas le meilleur joueur du monde, on va quand même t'applaudir.
Et c'est de toi-même que tu as proposé ces conseils à Djibril, ou c'est Djibril qui t'avait contacté avant d'aller à Liverpool ?
Non, j'étais à Liverpool pour faire un reportage et j'ai pu passer du temps avec lui. Et je l'aimais bien, donc je voulais qu'il réussisse. Donc je dis, mais j'essaie de lui dire, allez, vas-y, tu vas réussir. Mais voilà, mais pour assurer ton truc, vas-y, quoi, tu vois, cours comme un fou, fais ce que tu ferais pas normalement, peut-être, mais il faut comprendre, tu vois, la mentalité très différente.
T'as un forfait de base en Angleterre, à l'époque, tu vois, c'était, tu te bats, le fighting spirit, c'est quoi ? C'est ça, cours, on s'en fout que tu fasses un contrôle, que tu saches super bien dribbler, fais déjà ça, puis après, ça, si tu sais très bien dribbler, si tu mets l'intensité, si tu gagnes des duels, si tu fais ce que le jeu demande, le jeu anglais demande, c'est déjà bien. Après, si tu peux rajouter les dribbles, les passes, OK. Mais pas avant. N'inverse pas les rôles.
Et du coup, pour toi, est-ce que c'était pas un peu démagogique de faire ce type d'effort, même si tu sais que ça sert à rien ? Est-ce que c'est pas un peu de la démagogie ? Ou alors, ça appartient...
Mais oui, mais tout à fait. À un moment donné, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de poser ce tacle-là pour faire lever le... non, mais si. Parce que quand tu vois des super talents, tu vois, moi j'ai joué contre Steven Gerrard, le mec... Au départ, t'as l'impression que c'était un boucher. Moi, franchement, quand j'ai vu arriver, mais c'est un boucher, mais les tacles partout. Sauf qu'après, quand je l'ai vu, avec le ballon, les frappes de balles et tout ça, je me suis dit, ah ben ouais, d'abord tu gagnes le cœur des supporters. Donc c'est, ouais, t'es milieu défensif, pose des tacles, gagne des ballons, ok? Et puis après, tu peux commencer à être ce que tu veux être. Et puis en Angleterre, c'est quand même sympa d'avoir le public avec toi.
Mais tu vois, des joueurs français qui ont compris et qui ont en quelque sorte ouvert les portes pour des Thierry Henry et compagnie, c'est Ginola et Cantona. Donc là, on parle de joueurs très techniques qui avaient, et c'est ça qui était apprécié, parce que oui, ils savaient faire des choses avec le ballon que la plupart des joueurs anglais ne pouvaient pas faire. Mais tous les deux ont compris aussi la mentalité anglaise. Mmh. Ginola, il n'était pas en train d'aller cueillir des fleurs en attendant le ballon. Le mec, il courait et puis tu vois, il se battait. Il était très physique. Il a dû ajouter ça à son jeu parce que l'intelligence du jeu, il a compris qu'il ne pouvait pas exister. Même et dans une ville comme Newcastle, très classe ouvrière, il fallait que tu montres aussi que tu étais prêt à courir, te défoncer pendant tout le match. Parce que le talent, il l'avait, tu vois, donc il a su l'exprimer et donc il était adoré par les supporters parce qu'il y allait aussi. Et Cantona, bah, évidemment, Cantona savait qu'il avait le fighting spirit avant qu'il quitte la France. Il montrait plus de fight que de foot par moment. Mais voilà, c'était aussi son intelligence en Angleterre. Il a su tu vois, montrer par sa capacité et son envie d'y aller physiquement. Et c'est ça qui fait la différence. Hein. L'anglais derrière, le supporter, il voit que tu as un talent fou en anglais. Il y a la technique, tu vois, le French technique et tout ça, French touch. Ouais. Mais en plus, tu étais prêt à y aller mettre des tacles, mettre des tampons. Ah bah là, à ce moment-là.
Sur Ginola, c'était le magnifico. Alors la force de Ginola, c'est que c'est un beau bébé. Okay. Mais il avait tendance, tu sais, en France, plutôt que tu le touchais, à tomber et à demander la faute. Mmh. En Angleterre, on lui a dit écoute, on va pas te siffler faute. Donc vas-y. Sois dur. Thierry, quand il est arrivé, c'est un peu la même chose. Tous ces mecs-là, ils ont compris, ils ont le talent, mais tu dois résister d'abord à la charge. Et puis après, t'inquiète pas. Et puis après, les mecs, ils tombaient plus. Hein. Thierry, tu vois, ils tombaient plus. Tous ces mecs-là, ils tombaient plus.
Ils faisaient tomber les autres.
Ils faisaient tomber les autres.
Et toi, au-delà du stade et du tacle qui fait se lever les foules, en dehors du stade, comment tu as vu ou perçu le fait que ce soit le pays de la culture foot, l'Angleterre, dans les conversations ou dans les...
Un exemple simple, quand on arrive à Upton Park, donc c'était le stade de West Ham, tu arrives en costume et généralement en France, c'est que les gens connus, les stars, les joueurs phares qui signaient des autographes ou le 11 titulaire ou les 15. Là, en Angleterre, tu avais tous les joueurs, grosso modo, qui arrivaient, donc on était 20 joueurs et tu as le quatrième gardien, même moi je le connaissais pas, sincèrement, et il y a les supporters, je me rappelle plus. Oh, Gordon. Et donc il commence à signer les autographes, mais en mode serein lui. Genre il a l'habitude. Et là c'est Joe Cole qui me dit non mais quand tu portes le maillot de West Ham, tu fais partie de la famille. Donc que tu sois quatrième, troisième, tu portes le maillot que eux aimeraient porter. Donc ça y est, t'es homologué, t'es super joueur. Voilà, tu fais partie de la famille. Donc t'es au même niveau que les autres. Et donc il signe les autographes autant que Paulo Di Canio. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et là dans ma tête je dis ah ouais. D'accord, t'as le maillot, c'est top. Et même moi, pour te dire, j'ai vu un gamin qui avait 7 ans avec mon maillot. Et le papa, il me dit, regardez, j'avais le numéro 25. Dans ma tête, j'ai envie de dire, mais vous avez perdu de l'argent quand même. Mais tu vois, c'est pour te dire, tu vas... Non mais, c'est folklore, le numéro 25, je veux dire, ouais. Et parce qu'ils se disent, bon, on te connaît pas trop, mais bon, tu fais partie de la famille, donc on a acheté ton maillot.
Okay. Ouais.
J'ai adoré, j'ai trouvé ça, voilà quoi. Mais après, t'as qu'une envie, c'est de te dépouiller. Tu fais partie d'un club, et d'une famille. Et donc j'ai trouvé ça fort, ça m'a fait du bien, ça existait, donc c'était top, l'Angleterre c'est ça.
Darren, c'est une question un peu, pas philosophique, mais peut-être un peu trop large, et tu vas utiliser des exemples pour ça, mais la question qu'on avait posée, c'était qu'est-ce que ton parcours, le fait que tu sois anglais et que tu aies réussi à t'imposer, à être une figure du foot en France finalement, raconte du rapport au foot en Angleterre et en France selon toi?
Oh là là.
C'est très...
T'as 30 minutes.
J'ai 4 heures.
Non, 30 minutes.
Ah, c'est difficile à répondre. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, je pense que je rejoins ce que j'étais en train de dire avant par rapport à l'intérêt que vous pouvez avoir à une ouverture d'esprit par rapport aux autres footballs. Si j'ai pu passer à la télé en France, c'est grâce à la Premier League. C'est pas parce que j'étais le présentateur ou le consultant du siècle. C'est parce que dans un premier temps, il y a cet intérêt, cette émission, l'équipe de dimanche, qui existait déjà, mais dans un format beaucoup plus, bim, 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 allez, tous les buts. Et maintenant, tu vois, la Première Ligue en Autriche. Et maintenant, l'Écosse. Oh putain, on est obligé de regarder ces buts-là. Bref, c'était très complet, mais beaucoup trop de buts peut-être, tu vois, quand on y pense. Lorsque Hervé Matou, on lui donne l'émission, parce que Thierry Gélardine ne voulait plus le faire. Hervé est un transfuge de TF1 déjà, donc il y a toute une histoire à Canal par rapport à ça. C'était pas la rédaction la plus facile où arriver. Hein. Canal, c'était le top du top. Et donc, il fallait que tu montres que tu méritais ta place. Je n'étais pas confronté à ça tout de suite, heureusement pour moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a cette nouvelle version de l'émission qui va être lancée par Hervé, donc, que je ne connaissais pas. Et j'étais dans la presse écrite à ce moment-là. Et grâce au fait que j'étais en France depuis quelques années maintenant et que j'étais quand même devenu journaliste, bien malgré les règles de l'art, parce que si vous voulez tout savoir, j'étais rentré après 6 ans à Paris en faisant prof d'anglais. Je rentre en Angleterre pour devenir journaliste, parce que je suis tellement naïf, je pense que je vais devenir journaliste maintenant. Hein? Et quand j'étais petit, en fait, le truc où j'étais fort à l'école, c'était dans l'écrit, donc l'anglais, quoi. Et quand j'étais petit, j'étais très intéressé par la politique et je voulais être journaliste politique. Bon, il se trouve que les études, une fois que j'avais compris que tu avais juste besoin du moyen pour passer, je commence à travailler de moins en moins. Je vais à l'université presque en reculant 2 ans après mes amis parce qu'on me dit, ça fait 18 mois que tu travailles à l'usine maintenant, ce qui était vrai. Et c'était censé être un job pour l'été. Donc là, t'es parti pour un job pour la vie, mec. Tu vois, c'est pas vraiment la gagne, ça. Donc je vais finalement faire des études. Là aussi, après un an, je lâche tout pour plein de raisons. C'est trop long pour raconter. Mais quand je me retrouve après 6 ans à Paris, donc avec cette improbable histoire d'être prof d'anglais, et je me dis, OK, maintenant, parce que j'avais rencontré ma future femme, et elle, au moins, avait une idée de ce qu'il fallait faire dans la vie, tu vois, c'est-à-dire arrêter d'être branleur qui fout rien et ne pense pas à demain. Je dis, OK, c'est le moment peut-être de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire devenir journaliste. Mais maintenant, j'avais compris que ce n'était pas dans la politique que je voulais travailler, mais dans le sport, parce que j'étais assez sensé pour comprendre que j'ai passé tellement de temps à regarder du sport, à lire. C'est avec l'équipe que j'ai appris le français, tu vois. J'achetais l'équipe tous les matins parce que j'étais fasciné par le fait qu'il y avait un quotidien sportif dans ce pays, parce qu'en Angleterre, il n'y en a pas. Parce que chaque quotidien fait entre 8 et 12 pages de sport tous les jours, de toute façon, donc il n'y a pas la place pour un journal de sport. Donc j'étais fasciné par l'équipe. Et même si je commençais, au début, je ne comprenais même pas la moitié des mots, ça m'a vachement aidé à voir comment le français s'écrivait. Et donc j'imaginais que ce mot devait vouloir dire ça, parce que dans cette configuration, ça doit être le mot pour to shoot, tu vois, tirer. Okay. Non, mais tu vois, et je me suis appris. Bref, pour dire que je suis journaliste et je veux devenir journaliste sportif, donc je dois, en rentrant en Angleterre, trouver un job. Et le mec naïf que je suis, à 28 ans, évidemment, tu vois, personne ne veut un type qui n'a pas fait de l'université, qui n'a rien étudié en tant que journaliste non plus et qui a zéro expérience. Donc, une fois que j'avais compris ça, j'invente un CV, en fait, où tout était vrai. sur la première ligne, où il y a mon nom et mon...
Ton prénom et ta date de naissance.
Et date de naissance.
Après...
J'ai failli changer la date de naissance. Ah, parce que je me suis dit, peut-être que je suis un peu trop vieux pour aller... J'ai vu une annonce pour un junior, tu vois. Bon, j'y vais. Et donc, j'invente, je dis que j'ai eu ma licence à Manchester et tout ça, tu vois, faux. Et je dis que j'ai 3 ans d'expérience de journalisme parce qu'à Paris, je travaille pour un journal britannique, tu vois, dans la langue anglaise, pour un truc qui existait, mais il n'y avait jamais un article sur le sport. Et surtout, moi, je n'ai jamais mis les pieds. Mais voilà, j'invente un truc. Et en même temps, tu vois, je me justifie en disant, le journalisme, c'est quoi ? C'est un travail d'écriture. Et donc, il faut savoir aussi écrire et être créatif. Voilà le premier exemple, c'est mon CV. Bref, j'ai le job, tu vois, par miracle. Et je reviens 2 ans plus tard à Paris. Je me suis transféré au bureau de Paris. Et donc, depuis quelques années, je suis là pour Bloomberg et je couvre certains événements et les gens sportifs commencent à me croiser en me regardant comme si je suis un alien parce que tu vas couvrir un match de l'équipe de France de foot. Toi, tu as les questions qui, pour ton quotidien, ouais. quotidien, pour ton journal, pour ton émission de radio. Vous avez tous plus ou moins les mêmes intérêts. Moi, que vous allez jouer en 4-3-3 ou 4-4-2, l'équipe de France, rien à battre. Mais moi, Nicolas Anelka, qui venait de faire quelque chose en Angleterre, moi, c'était mon ongle de papier. Donc, je posais des questions, mais qui n'avaient rien à voir avec les autres. Ouais. Et parfois, ça emmerdait les collègues. Mais bon, à un moment donné, quelqu'un m'a dit tiens, avec ton accent, là, ça pourrait être sympa que tu passes dans notre émission de radio. C'était Europe 1 à l'époque. Parce qu'il y avait Pierre-Louis Basse,
ouais.
que je salue chaleureusement, qui animait tous les soirs. Et lui, c'était très philosophe, culture, un mec hyper cultivé. Mais il adorait le foot anglais. Il en parlait souvent parce qu'effectivement, il y avait les Barthez et compagnie en Premier League. Donc, ça intéressait une audience française. Tu vois. Là aussi, une différence parce que tu proposes ça sur la BBC en Angleterre. On va parler du foot français maintenant. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est tout le monde qui éteint la radio. Mais en France, toi, il y avait un intérêt parce que vous avez des stars qui jouaient là-bas. Et on m'a dit, toi, avec ton accent anglais, ça va peut-être le faire à la radio parce que les gens, ils vont entendre ton accent. Moi, je dis, de quel accent parlez-vous? Mais OK.
J'ai pas d'accent.
J'ai pensé ne plus avoir d'accent, mais bon. Effectivement, il y avait un petit truc déjà, tu vois. Hey, avec nous ce soir, tu vois, notre spécialiste Premier League, et, tu vois, j'ai l'accent, quoi, tu vois, donc ça faisait légitime. Et ça se passe comme ça pendant quelques semaines seulement, lorsque Hervé apprend qu'il va faire cette nouvelle version de l'équipe de dimanche. Et c'est donc Pierre-Louis Basse qui dit, parce que Hervé envoie un mot, je pense, à tout son entourage, putain, il me faut un anglais, un allemand, un espagnol, vous connaissez des gens, tu vois, des journalistes sur place. Et Pierre-Louis lui dit un jour, j'ai un roast beef pour toi, littéralement. Le lundi, Hervé m'appelle. Le mardi, donc je ne le connaissais pas, hein, je pensais que c'était une blague. Et dans un premier temps, je fais genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que c'était pas une, je captais pas très bien. Déjà, mon français et tout. Et un gars qui est en train de dire Canal+, Hervé Matou, ouais, moi je suis là. ouais, c'est ça. Et je me dis, mais c'est qui fait cette blague-là? Et puis, tu vois, au fur et à mesure, je dis, putain, c'est vraiment le mec de la télé, en fait. Et il est en train de me dire, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble demain? Tu vois, et on se voit donc le mardi, on déjeune, il dit dimanche tu peux faire l'émission? Yeah, I guess, tu vois, pourquoi pas, j'avais rien de prévu. Et c'est comme ça que ça commence. Mais tu vois, tu te dis parfois, maison comme Canal, tu vois, il y a dû avoir un casting, ils ont tuto pendant des mois, ils ont sillonné la France pour trouver le roast beef, tu vois, qu'il fallait. Non, pas du tout. Le mardi, ils avaient toujours personne pour le dimanche, tu vois. Et moi, je débarque sans avoir fait la télé, avec autour de la table, donc Hervé, super animateur, super présentateur, très sympa envers nous, tu vois, il nous aide. Mais autour de la table, on est tous nuls. On n'a jamais fait la télé, tous les autres. Et c'est comme ça que ça commence. Et ma chance, et vraiment, elle est énorme, c'est qu'autour de la table, on est tous nuls, mais jusqu'à un point où il va falloir nous remplacer.
Mais qu'est-ce que t'appelles nul? Qu'est-ce que t'appelles nul?
On est parfait pour la télé.
Vous n'êtes pas à l'aise, mais vous n'avez pas les codes.
Il y a un Italien qui est super sympa, mais il travaillait pour la Gazzetta, tu vois.
Oui, mais
vous
n'avez pas d'expérience.
Il écrivait bien, mais il n'était peut-être pas celui qu'il fallait pour la télé. C'est quand même, tu vois. Il y avait un autre qui avait, comment on dit, dans In the Métier, il avait une bonne tête pour faire de la radio. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être la télé, c'était pas. Ouais. Donc, avec tous nos accents, c'était pas toujours possible de comprendre ce qui était en train de.
Tu vois? Il fallait sous-titrer.
Oh putain! Tu vois, il y avait des émissions où moi, tu comprenais rien du tout. Hein, donc, ma chance, c'est qu'ils ont dit, je ne sais pas dans quel ordre, mais dans un premier temps, allez, on va devoir remplacer celui qui fait l'Allemagne. Donc, le temps qu'il faut pour en trouver quelqu'un. Après, bon, celui qui fait le foot espagnol, l'Argentin, ne comprend rien, tu vois. Le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre, tu vois. La saison est terminée. Moi, je suis encore là, je suis encore en vie, tu vois. C'est comme un quiz, tu vois, un jeu à la télé. Et encore en vie, le survivant, c'est l'anglais, tu vois. Donc, je démarre la deuxième saison parce que je suis encore en vie, quoi, tu vois. Donc, ça m'a permis, tu vois, au moins de prendre un peu le temps pour apprendre et de commencer à comprendre un petit peu comment ça se passait.
C'est quoi la question? La question, c'était qu'est-ce que ton parcours raconte? Mais du coup, est-ce qu'un parcours comme ça serait possible pour un journaliste français et qui débarque à Londres et qui se retrouve à présenter du football? Ça, c'est pas possible.
Ouais, voilà. Donc ma chance, pour revenir à ta question, c'est que je suis anglais et que vous aimez le football anglais. Donc ça, c'est ma chance. Et ça me permet d'avoir cette petite possibilité de faire de la télé. Et puis petit à petit, bon, moi, j'y prends goût. Je quitte le job que j'ai. Tu vois, j'avais un bon CDI chez Bloomberg et tout. J'étais pas obligé de partir. J'étais bien, mais j'avais pris goût et le foot anglais me permet d'avoir une place chez Canal. À l'époque, je ne savais pas ce que ça représentait. C'est seulement avec le recul qu'on comprend un peu mieux où on était et la chance qu'on avait d'y être, quoi. Mais c'est grâce à l'intérêt du public pour la Première Ligue que j'ai cette place. Donc, à Londres, est-ce que c'est possible de faire l'inverse? Pas tout à fait, même si on a un pote, Julien Laurence, qu'on salue bien s'il nous écoute. Ben, Julien, il était le correspondant pour le Parisien à Londres. Il rencontre une Anglaise qui travaille à Arsenal, me semble-t-il. Voilà, donc il est heureux dans la vie là-bas avec son Anglaise. Et lui, petit à petit, il a pu exister à la télé en parlant du football français. Parce qu'ils avaient une espèce d'émission un peu comme l'équipe de dimanche, où c'était le gars qui racontait des histoires du football français. Là où c'est pas tout à fait pareil, c'est que, oui,
L'intérêt de l'époque, c'était parce que les Qataris arrivent, ils rachètent le Paris Saint-Germain et il y a des stars comme Ibrahimovic et tout ça.
David Beckham.
Et donc là, c'est là qu'il a trouvé une faille et c'est là où il s'est engouffré et c'est juste toujours par des opportunités.
Oui, il est super fort, Julien. Il est très intelligent, il présente bien, il est malin. Donc, il a pu exister à travers cette émission de télé sur BT. C'était le mec qui faisait le football français parce qu'il est bon. Voilà, il a pu rebondir et faire des choses à côté. Aujourd'hui, il a un podcast, il a plein de petits trucs. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est un personnage du football en Angleterre.
Il ne répond plus au téléphone.
Malheureusement pour lui, le football français n'étant pas super populaire, tu vois, il n'a pas pu, je ne sais pas, moi, j'ai eu la chance de pouvoir présenter des émissions en dehors du foot anglais, parce que, voilà, dans un premier temps, c'est quand même le foot anglais qui était un moteur pour moi.
Mais juste, voilà, pourquoi ? Et là, on va revenir à un sujet qui est pas mal, c'est que là-bas aussi, il y a des anciens joueurs qui deviennent présentateurs, et la place des consultants en Angleterre aussi, elle est totalement différente. Oui. Par rapport à la France.
Oui, ça me fascine effectivement. Ça, c'est vraiment un sujet où tu vois que, vous savez, ceux qui nous écoutent, parce qu'il me semble qu'on a des gens cultivés qui nous écoutent. Donc, eux, ils savent que Gary Lineker, effectivement, est le présentateur numéro un en Angleterre pour le foot. Et Gary Lineker, ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, meilleur buteur de la Coupe du Monde 86, par exemple. Donc, le mec a une reconversion absolument extraordinaire, fabuleuse, et pas seulement dans le foot, parce qu'il a aussi présenté, ça a aussi une différence culturelle en Angleterre. Si tu es le présentateur vedette sport pour ta chaîne, eh ben, tu présentes tous les grands événements sport, en fait. Gary Lineker, il a présenté le Ryder Cup, il a présenté Wimbledon, il a présenté, tu vois, autre chose que le foot. Ici, moi, j'ai rêvé de faire pareil, et j'ai trouvé assez rapidement que c'était porte fermée souvent, parce que, tu vois, le syndicat des mecs du tennis, par exemple, c'était, qu'est-ce qu'il fait là, le mec du foot?
Ouais, c'est vrai.
C'est du tennis, là? Ouais. Bon, j'ai pu jouer la carte anglaise pour aller faire Wimbledon avec beIN Sport, mais, tu vois, à Canal, par exemple, je me souviens d'Alexandre Bompard, quand il arrive pour être patron des sports, premier chose, quand il me reçoit dans son bureau, il me dit « T'aimes pas le tennis ?» Je dis « Si, j'adore, pourquoi ?» Il dit « Mais Canal Plus à Wimbledon ?» Et je t'ai jamais vu là-bas. Je dis, tu rigoles. Je dis, mais moi, je suis un mec du foot, toi, donc ils vont jamais me laisser aller faire du tennis. Tu vas voir. Il dit, non, ça va changer. Ça n'a pas changé.
Ouais.
Bref, les consultants et les joueurs, donc en Angleterre, effectivement, Lineker, présentateur de tout, est très bien d'ailleurs. Et d'autres joueurs sont devenus présentateurs aussi. Parce que Lineker, ce n'est même pas le premier. Il y en avait un duo, et ça ne va pas beaucoup parler ici, mais Jimmy Greaves. Vous connaissez le nom de Jimmy Greaves, superstar du foot anglais dans les années 60. Lui et Ian St. John, qui était un bon joueur de Liverpool dans les années 70. Tous les deux, ils avaient déjà une émission de foot à la télé en Angleterre en 1985.
Okay.
85. Okay. Un duo d'anciens joueurs qui présentait une émission de 30 minutes sur l'actualité de foot pour le week-end et qui faisait déjà beaucoup d'humour. Parce que Jimmy Greaves, c'était un bout en train qui blaguait tout le temps. Donc, un peu un paga, quoi. Mais drôle. Et donc, je t'embrasse. Paga. Et donc, les deux, c'était déjà une émission de foot avec deux anciens joueurs. Il n'y a pas un journaliste, hein. Il n'y a personne. Il n'y a que à l'antenne. Bob Wilson, le gardien de but d'Arsenal dans les années 70, était devenu présentateur de télé aussi. Pas avec un journaliste, il est seul, il présente les émissions.
Ah ouais.
Donc c'est culturellement très différent et on le voit aujourd'hui aussi, même si je trouve que les meilleures émissions, c'est, je défends un peu mon propre métier. Là. Non mais il faut quand même un journaliste de temps en temps. Non mais je trouve que les meilleures émissions en Angleterre aujourd'hui, pour la plupart, ils sont dominés par les anciens joueurs, mais souvent menés comme tu fais si bien ici, Maxime. Il y a quand même un journaliste qui organise un peu le truc, parce que ce n'est pas facile déjà de se reconvertir, de s'habituer à la télé, d'être bon, mais aussi d'être le driver de l'émission. Mm-hmm. Donc, tu vois, les émissions que j'apprécie les plus, il y a un journaliste qui présente et après, il y a des joueurs autour. Mais effectivement, il y a beaucoup de différences entre ce qu'on voit en France et ce qu'on voit en Angleterre. Et je termine juste avec l'expérience que David Ginola a eue en Angleterre. On l'a vu à un moment quand il est revenu en France, c'était avec M6, pour être présentateur.
Il a commencé d'abord à Canal.
Et il a vécu tout ça en Angleterre. M6. Donc il a vu, tu vois, Lineker et tout ça. Et je suis sûr que David s'est dit, moi, je peux faire ça.
Salut les gars, je suis au studio avec Marc et je voulais vous dire que l'épisode est un peu long. On a été bavard avec Darren Tulette. Du coup, on va le couper en deux. Donc si ça vous va, la suite de cet épisode est à retrouver dans 15 jours. À très bientôt.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.